Bonsoir à tous, je suis heureux de vous retrouver. Pour la suite de ces études, nous sommes dans le livre de 1 Samuel et nous regardons justement cette histoire de ce jeune Samuel, un enfant né miraculeusement en réponse à la prière, qui va être consacré à Dieu, qui va se trouver dans le temple de l'Éternel qui se trouvait à Silo. Et là, Dieu va lui parler. La dernière fois, au chapitre 3, nous étions arrêtés lorsque Dieu, pour la première fois, appelle Samuel. Et Samuel se lève et dit: Me voici, mais il pense que c'est le sacrificateur Élie qui l'appelle. Et au bout de la troisième fois, le souverain sacrificateur lui dit: Mais ce n'est pas moi qui t'appelle, c'est l'Éternel. Et la prochaine fois qu'il t'appelle, tu répondras: Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Très bien. Et c'est une phrase magnifique à retenir quand on lit la Bible, de dire au Seigneur: Parle-moi, car je veux t'écouter. Je ne veux pas juste lire la Bible pour la lire, mais je veux t'écouter. Alors nous allons regardez à partir du verset 11 de 1 Samuel 3 pour l'instant. L'Éternel dit à Samuel, et là il va lui donner une prophétie: Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et il dit: Samuel, mon fils. Il répondit: Me voici. Et Élie dit: Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher. Et Élie dit: C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Et donc, la première révélation que Samuel reçoit, c'est une révélation de jugement. Imaginez ce jeune homme, hein, je ne sais pas quel âge il devait avoir là, mais il ne devait pas être très âgé, peut-être adolescent, et Dieu lui confie un message face à face. Dieu lui dit: Voilà ce que tu vas dire. Et ce n'était pas une bonne nouvelle, c'était une mauvaise nouvelle de jugement. Je vais juger la maison du souverain sacrificateur pour lequel tu travailles, hein. Tu es sous ses ordres, tu travailles avec lui, tu le connais bien, c'est un peu ton grand-père, hein. Il était âgé, c'était comme être avec son grand-père, mais je vais juger sa maison. Avec notre pensée d'aujourd'hui, on pourrait dire, mais est-ce que c'est pas trop dur? Il dit, il n'y aura plus de sacrifice, je vais l'expier, j'ai décidé de juger sa maison à perpétuité. Est-ce que Dieu est dur là? La réponse biblique, c'est non. Dieu est juste. Pourquoi Dieu est-il sévère? C'est vrai que c'est un jugement sévère. Il y a plusieurs raisons et ça doit nous faire réfléchir à nous aussi. La première raison, c'est que Dieu l'avait prévenu. Dieu avait envoyé un prophète, vous vous rappelez peut-être dans un chapitre précédent, qui avait dit: Élie, tu dois réprimer tes fils. Tes fils commettent des choses abominables. Ils volent de la nourriture, ils couchent avec les femmes, c'est des choses inadmissibles. À ce moment-là, Élie aurait dû dire: Mes fils, c'est terminé, vous n'êtes plus sacrificateurs, vous êtes indignes. Et même, il aurait dû peut-être les amener en jugement. Il aurait dû faire quelque chose, mais Élie n'a rien fait. Il a dit à ses fils, vous vous rappelez, hein, c'est pas bien ce que vous faites. C'est pas bien. Mais il n'a pas agi. Et cette fois-ci, le temps est passé, Dieu dit maintenant, c'est terminé. Maintenant, c'est l'heure du jugement. Et avec Dieu, on ne rigole pas. On ne peut pas jouer avec Dieu. Dieu est saint, Dieu est juste. Il ne peut pas laisser sa maison, ça peut être aujourd'hui, on peut appeler ça l'Église, son royaume, être méprisé, être dégradé. Et Dieu juge. Il prévient et puis il juge. Dieu est toujours gracieux, il nous laisse toujours une chance de nous en sortir. Il y a des mauvais parents quand un enfant fait une bêtise, il n'a pas le temps de finir la bêtise, qu'il a déjà une torgnole, on dit, une baffe pour le punir. Mais un enfant, il doit apprendre, on doit lui dire, écoute, ce que tu as fait n'est pas bien. La prochaine fois, tu seras puni. Il faut le prévenir pour qu'il sache que si je recommence, ça va tomber cette fois-ci. Mais au moins, il faut laisser toujours un temps de grâce, comme Dieu le fait. De nombreuses reprises, Dieu a laissé des temps de grâce. Dans la Bible, on voit ça, il prévient des siècles à l'avance, le déluge par exemple, il a prévenu des siècles à l'avance avant d'envoyer le déluge. Et même dans notre vie, Dieu nous avertit à droite, à gauche, il envoie des signes, il envoie des chrétiens, il envoie des paroles, et il avertit les gens, il dit attention, un jour il y aura le jugement dernier. Et déjà, même avant le jugement dernier, un jour tu vas mourir, ce qui est un jugement aussi, la mort est un jugement pour nous tous, Tu vas mourir. Est-ce que tu es prêt à faire face à ce jugement? Et je suis ébahi de voir tant de gens qui s'en fichent, qui vivent comme si la mort n'allait pas venir, comme s'ils allaient vivre éternellement. Ah, les vacances, ça, on les prépare, même 2 ans à l'avance des fois. Voilà, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai réservé dans l'hôtel, on va faire ci, on va faire des excursions, j'ai mon programme tout planifié pour juillet, là, ça y est. Oui, mais, et la mort? Tu as ton programme, là? Après la mort, tu vas où? Aucune idée, de toute façon, on verra. Non, on ne verra pas. C'est maintenant qu'il faut être prêt. Le jugement peut venir. Ici, c'est un jugement sur des croyants, sur le temple, la maison de Dieu. C'est là où Dieu, normalement, on allait rencontrer Dieu, c'était là, à Silo. Et au lieu de rencontrer Dieu, on se retrouvait face à Ophni et Phiné, qui étaient deux lascars abominables, deux racailles, qui ne pensaient qu'à leur intérêt et qu'à faire du mal. C'était inacceptable, inadmissible. Et donc Dieu a jugé, il a jugé aussi parce que justement Élie représentait Dieu sur terre. Il était le souverain sacrificateur, il a été jugé sévèrement parce qu'il avait un poste, si on peut dire, élevé. Et c'est pareil aussi pour les pasteurs, pour les responsables d'église, pour les évangélistes, mais c'est vrai aussi pour chacun d'entre nous. Nous avons des responsabilités et on doit être fidèle dans les responsabilités qui nous sont confiées. Ce qui est touchant avec Samuel, c'est qu'il a commencé par écouter Dieu. Dieu lui a parlé et après, il est devenu prophète. Le verset 19, « L'Éternel était avec Samuel, il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout le peuple reconnut que Samuel était établi prophète. » Avant de parler au nom de Dieu, il faut écouter Dieu. Il y a des gens qui ont des facilités à parler. Ils peuvent parler sur n'importe quoi. Moi, quand j'étais en prépa, on apprenait à parler sur n'importe quel sujet pendant 10 minutes. On vous donnait un sujet, en général un sujet où vous n'aviez aucune idée de quoi ça parle. Et on disait, voilà, tu as 5 minutes pour préparer, maintenant je veux un speech de 10 minutes. Il fallait improviser, il fallait inventer, il fallait peut-être se rappeler certaines choses. Et on apprenait à être des beaux parleurs, parce qu'on se préparait soit au commerce pour certains, soit même à la politique pour d'autres. Ça peut mener à Sciences Po et puis faire de la politique. Beaux parleurs. Mais Dieu ne veut pas des beaux parleurs. Dieu, il veut des prophètes. Un prophète, c'est quelqu'un qui va dire exactement ce que Dieu veut dire. Il ne va pas chercher à amadouer, il ne va pas chercher à plaire, il ne va pas chercher à dire ce qui lui... Ses idées personnelles, ses opinions, nos opinions ne sont pas intéressantes au-delà de nos proches. Par contre, la parole de Dieu est importante. Et pour être prophète, il faut d'abord écouter Dieu. C'est l'écrivain et pasteur Bounds qui a écrit sur la puissance de la prière. Et il a dit, avant de prêcher avec puissance, il faut avoir d'abord passé du temps devant Dieu dans la prière. Dans l'humiliation de dire « Seigneur, je suis indigne, Seigneur, je ne mérite même pas d'être ton porte-parole, mais dis-moi ce que tu veux que je dise. » Et dans cette prière où on écoute Dieu, quand on sort après et qu'on parle, c'est Dieu qui parle à travers nous. Et c'est pour ça qu'avant de parler, il faut écouter Dieu. On doit prendre l'habitude en tant que chrétien d'être à l'écoute du Seigneur. Dieu veut une relation avec lui. Ce n'est pas comme dans beaucoup de religions où Dieu est lointain et on essaye de le comprendre sans trop comprendre. Tu es là, oui, tu es toujours là, d'accord. Bon, apparemment, il est toujours là, mais on ne sait pas exactement ce qu'il veut. Non, Dieu veut cette relation, il veut nous parler. Alors, ce n'est pas forcément avec une voix audible, évidemment. On ne va pas avoir un dialogue à haute voix avec Dieu. Mais il veut nous parler par son esprit, par sa parole, la Bible. Et à nous de l'écouter. Trop de chrétiens n'écoutent plus Dieu, de même que les maris n'écoutent plus leur femme. Au bout d'un certain nombre d'années, la tendance est de ne plus écouter son conjoint. Eh bien, ce n'est pas parce que j'ai 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne que je ne dois plus écouter Dieu. Au contraire. J'ai besoin d'entendre sa voix. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Cela nous mène au chapitre 4, où le jugement arrive à travers les ennemis d'Israël. Souvent, Dieu a utilisé les peuples alentour comme jugement pour le peuple juif. Là, ce sont les Philistins, les ennemis, archi-ennemis. Les Philistins se mettent à attaquer Israël. Ils se mettent en ordre de bataille. À l'époque, les batailles, c'était armée contre armée dans une plaine et on se fonçait dessus. Et c'était vaille que vaille. Il y avait beaucoup de morts. Les guerres étaient très mortelles et terribles. Israël se range en bataille. Il est attaqué, donc il se défend. Le combat s'engage. Et je lis chapitre 4, verset 2. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent « Mais pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins ? Allons chercher à Silo l'arche de l'Alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Certains avaient peut-être vécu au temps de Josué, lorsque c'était Josué le chef, il y avait la victoire. La bataille de Jéricho, ils étaient un petit nombre contre une immense ville avec des fortifications géantes. Et c'est Dieu qui avait abattu les murs par un tremblement de terre probablement. Ils étaient rentrés, ils avaient eu la victoire. Et il y avait d'autres victoires comme ça dans la terre promise que Josué a eue. Et là, une petite bataille, enfin, avec 4000 morts quand même, et c'est la défaite. Et les anciens d'Israël disent « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu? Pourquoi tu nous as laissé battre ?» Presque, ils accusent Dieu, finalement. C'est de la faute de Dieu si on est battu. Dieu aurait dû être avec nous. Alors, on va chercher l'arche de l'Alliance. Est-ce que vous voyez le problème, là, dans cette attitude? Pourquoi Dieu les a fait battre? Parce qu'il y avait du péché dans le camp. Quand on se souvient, dans l'histoire de Josué, il y a eu une défaite fameuse. C'était de quelle petite ville qui a vaincu Israël? Haï. Aïe, ça porte bien son nom. Cette petit village-là a résisté d'une façon extraordinaire contre l'armée d'Israël. Et Josué, étant battu, là, a dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? On a eu Jéricho qui était immense, et là, petit village d'Aïe, on se fait battre. Et il a cherché la face du Seigneur, le Seigneur lui a dit, il y a le péché dans le camp. Quelqu'un a volé, a pillé le champ de bataille, alors que j'avais demandé de ne pas piller le champ de bataille. Et donc, ils ont tiré au sort pour que Dieu montre quelle famille était coupable, et c'était la famille de Acan. Acan, A-C-A-N. La famille d'Acan, c'était Acan qui avait pillé avec sa famille. Ils avaient caché des choses, des bijoux et toutes sortes de choses, alors que Dieu avait dit, vous ne prendrez rien, vous laisserez tout. Ils ont désobéi. Et à cause de ce péché dans le camp, Israël a perdu la bataille. Quand ils ont réglé ce problème, et ça veut dire qu'ils ont condamné à mort Acan et sa famille, ils sont repartis et ils ont gagné. Quelle est la leçon là spirituelle pour nous? Ça, tout à fait. Le péché, l'humilité. Il faut être humble et ne pas... C'est pas parce que j'ai eu une victoire la veille qu'elle va revenir le lendemain. Se mettre en règle avec Dieu, exactement, encore une autre leçon. Dieu est saint. Ce n'est pas parce que j'ai eu une victoire que ça y est, tout va bien pour moi. Non, je dois rester près du Seigneur. Et parfois, le péché dans ma vie vient tout gâcher. J'ai laissé un péché là, et au lieu de l'abandonner, au lieu de le laisser, je l'ai même encouragé, je l'ai protégé. Et ce péché va être la source de ma ruine, parce que Satan va s'introduire dans ma vie à travers ce péché pour me faire chuter et pour démolir mon témoignage. Dieu est saint et il ne veut aucun péché dans le camp et dans nos vies. Et donc, il fallait faire quelque chose. Là, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va éliminer Élie et sa famille. Ils vont tous mourir dans la journée. Mais les anciens d'Israël n'ont pas vu ça. Ils ne voient pas la chose venir, ils ne comprennent pas. Mais pourquoi? Pourquoi? Et ça, c'est terrible, c'est quand on est aveugle sur son propre péché. Je pense que c'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. Il y a des gens qui se disent, oui, moi je sais, oh là là, je sais où j'en suis. C'est presque mieux, je dirais, que quelqu'un qui pense qu'il va bien, comme là, ces anciens. Mais je ne comprends pas pourquoi on a perdu la bataille. Mais tu n'as pas vu que dans le temple à Silo, il y a d'énormes péchés, des abominations, là où il devrait y avoir la sainteté. Et donc, quand on est aveugle, c'est là le pire. Alors, eux, ils se raccrochent à quoi? Ils se raccrochent à l'arche de l'Alliance, le coffre, vous savez, qui était dans le lieu très saint. Et pour eux, le coffre, c'est leur talisman, c'est leur protection. À cette époque-là, les peuplades avaient des dieux, différents dieux, et surtout des dieux tutélaires qui les aidaient dans les batailles. Alors, on arrivait avec son dieu. Ce qui reste de cette époque, de l'Antiquité, ce sont les processions. Dans l'Église catholique, on fait des processions à différentes périodes de l'année dans différentes villes, et on met le Dieu sur un plateau et on le porte. En général, c'est la Vierge Marie, mais ça peut être un saint. Et on l'acclame et on l'applaudit et on le touche et on fait une fête pour le Dieu, la divinité, la déesse, peu importe. Ça vient du paganisme de l'Antiquité, où le dieu devait défendre le village ou la ville. Et les Israélites ont copié les païens. Ils ont pensé que le coffre, c'était l'Éternel, et que donc si on avait le coffre au milieu de nous, si on le portait, on aurait la victoire. Dieu serait avec nous, que Dieu était dans le coffre, et donc il nous donnerait la victoire. Mais Dieu n'était pas dans le coffre. Dieu n'est pas dans un coffre. Parfois, on peut se dire, nous aussi, bon, je vis dans le péché, il y a des choses dans ma vie que je tolère, je ne devrais pas tolérer, mais je vais à l'église le dimanche. Mais j'ai ma Bible à la maison, j'ai même trois Bibles à la maison, regarde, dans ma bibliothèque, j'ai trois Bibles. Mais je prie le soir avant de me coucher. Mais tout ça, ce n'est pas Dieu. Aller à l'église, avoir une Bible, prier, ce n'est pas Dieu. Et ce qu'il faut, c'est être en relation avec Dieu, c'est être en règle avec Dieu. C'est d'avoir un cœur qui aime Dieu, qui sert Dieu. Et même si on a péché, ça nous arrive de chuter, de pécher, mais de revenir tout de suite à Dieu, dire « Seigneur, veuille me purifier par ton sang. Je ne veux pas rester fâché avec toi, je ne veux pas qu'il y ait un péché entre toi et moi. Je veux que ce soit clair. » Et là, eh bien, au lieu de régler les choses, ils ont amené le coffre et ils se sont dit « ça y est, avec le coffre. » Et effectivement, les Philistins, quand ils ont vu l'Arche d'Alliance, ils ont paniqué. Il y a eu des cris. Et verset 6 du chapitre 4, « Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. » Et ils dirent, « Mais que signifient ces cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Et ils apprirent que l'Arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. « Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous! Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans les déserts. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux. » Les Philistins avaient plus de crainte de Dieu que les anciens d'Israël. Quand ils ont vu l'arche, ils ont eu vraiment peur. Les anciens, Élie, Ophni et Phiné, n'avaient pas peur de Dieu. Ils s'amusaient avec Dieu, avec les choses de Dieu. Ils ont utilisé l'arche comme une protection, je ne sais pas quoi. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien, il est arrivé ce qui devait arriver, bien sûr. C'est que l'arche ne les a pas protégés du tout. Même les Philistins ont pris l'arche et l'ont ramenée chez eux. Et la bataille a été une défaite totale. Ophni et Phiné sont morts, les deux fils. Élie attendait le résultat dans la ville, hein, comme c'était un vieil homme, il avait, je crois, 92 ans ou quelque chose comme ça, 98, un très vieil homme. Il était sur une chaise à l'entrée de la ville et il attendait les nouvelles. Comment se passe la bataille? Et un coursier est venu lui dire, nous avons perdu la bataille. Première mauvaise nouvelle. Deuxième, Ophni et Phiné ont été tués. Deuxième mauvaise nouvelle. L'arche a été prise par les ennemis. Et c'est ça qui va donner une sorte de crise cardiaque à Élie. Il va tomber de sa chaise et mourir sur le coup, en apprenant que l'arche a été prise. Et ça montre que pour lui, quand même, même s'il était un homme désobéissant, l'arche de Dieu, c'était quand même au-dessus. Il souffrait que ses fils soient morts, mais il souffrait encore plus que l'arche ait été prise. Mais c'était trop tard, Élie, c'est trop tard, c'est avant qu'il fallait réagir. Vous vous rappelez quand Samuel lui a raconté le jugement, la prophétie, qu'est-ce qu'il a dit? Que l'Éternel fasse ce qui lui plaît, ce qui lui semblera bon. Il prend ça d'un air détaché. Il aurait dû pleurer, il aurait dû dire, mais Seigneur, laisse-moi encore une chance, je t'en supplie, je vais changer les choses. Mais il était totalement passif. Et là, il subit le jugement de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y a un jugement similaire. Est-ce que vous savez qui a été jugé, vous rappelez, dans les Actes? Ananias et Saphira, en Actes chapitre 5. C'est ce qu'on appelle des châtiments exemplaires. C'est-à-dire, ça n'arrive pas à chaque fois, heureusement, parce qu'il n'y aurait plus beaucoup de survivants hein, dans le monde, ni dans les églises. Mais ce sont des châtiments exemplaires qui sont là pour nous montrer qu'on ne plaisante pas avec Dieu, on ne triche pas avec Dieu, on ne ment pas à Dieu. Et Ananias et Saphira avaient menti au Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre a dit, vous avez menti au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit les a, on peut dire, tués hein, sur le champ. Ils sont morts, tous les deux, Ananias et Saphira. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Dieu pardonne beaucoup. Mais il y a un moment où on arrive au bout, où sa sainteté est mise en doute. Et là, Dieu juge. Et c'est pour ça qu'on doit avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas cette peur, panique hein, qu'avaient les Philistins, mais c'est ce respect. Dieu est saint. On ne se moque pas de Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Je pense aux leaders chrétiens qui vivent dans le péché, qui égarent les âmes, qui prêchent des fausses doctrines, qui font ça pour l'argent. Des pasteurs qui sont là pour l'argent. Et qui utilisent la Bible, qui utilisent les églises, leur église, pour manipuler les gens, ceux-là vont recevoir un jugement terrible, sévère. Et déjà, souvent, ils sont jugés de leur vivant. Hein. On doit avoir cette crainte de Dieu. Dieu est saint, et c'est ce qu'on apprend ici dans ce livre. Et puis, en même temps, c'est une purification, c'est-à-dire Dieu enlève la famille, hein, Élie, Ophni, Phiné, qui mettait le désordre, et il va pouvoir mettre quelqu'un à la place. Qui va prendre la place finalement? C'est Samuel. Parce que la Bible nous apprend que Élie était le juge à cette époque-là. Vous savez, c'est l'époque des juges. Il y avait toujours un juge qui gouvernait Israël. Et le gouverneur, là, c'était Élie. Aïe, aïe, aïe. Hein. Je ne sais pas ce qu'il devait diriger. Il ne devait rien diriger. Déjà, il n'arrivait pas à diriger sa maison et ses fils. Donc imaginez comment pouvait-il diriger un pays. Mais Samuel va remplacer Élie en tant que juge. Samuel ne sera pas sacrificateur, hein, il sera prophète surtout. Il va parler de la part de Dieu. Il va ramener Israël à Dieu. Et c'est vrai que de temps en temps, il faut une purification. Que ce soit dans nos vies ou dans les églises, dans l'église. Lorsqu'on laisse le péché s'installer, le péché c'est comme le levain. Qu'est-ce que ça fait le levain? Ça fermente et ça fait lever toute la pâte. Si vous laissez le levain en disant Oh, ça passera avec le temps, va, t'inquiète pas. Non, 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 avec le temps, ça va même tout prendre. C'est comme la gangrène, hein. Faut pas attendre, écoute, t'as une gangrène, on va attendre une semaine, voir si ça va mieux. Ça, c'est irresponsable, c'est fou. Si t'as la gangrène, il faut vite intervenir. Et c'est pareil avec le péché, c'est une gangrène, le péché. Et il faut intervenir, il faut le régler dans nos vies, dans les églises. Il faut se mettre devant le Seigneur. Et le Seigneur veut que sa maison soit pure. Et quand elle est pure, alors elle peut rayonner. Comme on le voit après, Israël va rayonner au temps de Samuel, avec David, avec Salomon, parce qu'ils vont être, ils vont marcher droit dans le Seigneur, ils vont suivre sa parole. Ce qui est touchant avec cette histoire ensuite, c'est que les Philistins, au chapitre 5, vont prendre l'arche de Dieu, ils vont la transporter dans leur ville, leur capitale, Asdod. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont avoir plein de problèmes. La Bible parle d'hémorroïdes. Tout le peuple va être frappé d'infections. C'est quelque chose d'humiliant un peu, hein, comme mal. Et c'est une infection, en fait. Ils vont être frappés de maladies, de maux, de problèmes sans arrêt. Et au bout d'un moment, ils vont dire, mais pourquoi on a tous ces problèmes? Et puis quelqu'un va dire, mais c'est parce que l'arche de l'Éternel est au milieu de nous. Il faut la rendre. Et curieusement, cette arche qui n'avait pas servi à protéger Israël, elle a retrouvé sa puissance, si on peut dire. Elle représente quand même l'Éternel auprès des Philistins. Et les Philistins vont voir que Dieu est vivant. Notamment, ils vont le mettre dans la maison de leur dieu Dagon, hein, et un dieu que les archéologues, hein, connaissent bien, les historiens de l'Antiquité. C'est une divinité très, très présente dans ces régions du Moyen-Orient. Et la statue du dieu Dagon va tomber toute seule, va presque se prosterner devant l'arche de l'Alliance, parce qu'ils ont mis l'arche et la statue du dieu Dagon dans la même pièce, dans le même temple. Et le dieu Dagon ne va pas beaucoup supporter tout ça. Il va mal finir. On voit la main de Dieu plus présente encore chez les ennemis. Et nous, on a tendance à dire, ah oui, il y a nous et puis il y a nos ennemis. Hein, Israël fonctionnait comme ça, il y avait ses ennemis. Mais en fait, pour Dieu, nous sommes tous des êtres humains, des créatures de Dieu. Et on ne doit pas voir les gens comme nos ennemis. Ils ont besoin du Seigneur. Ici, il y a un témoignage qui a été rendu. Israël n'a pas été capable de témoigner aux Philistins. Ils ont raté leur témoignage. Eh bien, Dieu l'a fait tout seul avec l'Arche de l'Alliance. Parce que les Philistins, ils ont compris que Dieu n'était pas une idole, qu'il était vivant, qu'il agissait. Il agissait en causant des problèmes, ça c'est vrai, mais ça leur montrait qu'ils étaient dans le péché, qu'il y avait un problème dans leur vie. Et finalement, ils vont rejeter, hein, l'Arche, ils vont le ramener en Israël pour être débarrassés de leurs problèmes. Mais il y aurait eu un témoignage rendu. Dieu veut qu'on rende notre témoignage. S'il nous laisse sur la terre, c'est pour qu'on soit ses témoins. Notre frère nous l'a bien rappelé, nous sommes appelés à être la lumière aussi, des lumières, des témoins. Mais un témoin, c'est pas juste quelqu'un qui a des belles paroles, hein, je le redis. C'est quelqu'un qui a une vie, qui parle, une vie qui est conforme au Seigneur. Et que Dieu ne nous enlève pas notre témoignage. Je vais terminer avec ce passage au chapitre 4, verset 19. La femme de Phiné, l'un des fils, hein, la belle-fille d'Élie, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari. Elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas, elle n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod, en disant « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » Ichabod, c'est un mot hébreu, hein, ça veut dire « plus de gloire, hein, la gloire est bannie ». Terminé. Et c'est terrible quand la gloire s'en va. Dans le prophète Ézéchiel, il y a un autre passage où la gloire quitte le temple aussi, hein, parce que les prêtres, encore une fois, seront dans l'idolâtrie. Est-ce que la gloire de Dieu repose sur nous? Est-ce que nous glorifions Dieu? C'est ça, glorifier, ça veut dire manifester la gloire de Dieu. par nos bouches, par nos vies, par nos paroles, par notre comportement avec tout le monde. Est-ce que la gloire de Dieu est parmi nous? Quand la gloire de Dieu est parmi nous, il se passe des choses extraordinaires. Mais vraiment extraordinaires, parce que c'est Dieu qui est là, Dieu qui est vivant. Et même les ennemis de Dieu, ceux qui sont contre Dieu, découvrent qu'il est un Dieu vivant. Mais quand la gloire est ternie ou même bafouée par nos comportements, alors là, il y a le jugement, parce que Dieu doit purifier. Dieu doit châtier ses enfants. Dieu est saint, il ne fait pas de favoritisme. Ce n'est pas parce qu'on lui appartient qu'on ne va pas avoir des fessées de temps en temps pour nous redresser. Au contraire, parce qu'on est ses fils, Dieu veut nous châtier pour nous corriger et nous ramener à lui. Alors, retenons bien la leçon et marchons comme des enfants bien-aimés du Seigneur, en l'écoutant régulièrement et en lui obéissant. Que jamais personne ne vienne prononcer un jugement sur nous, hein, comme Élie en a entendu un. Que ça nous arrive jamais, qu'on soit en règle avec Dieu. Si ce soir vous êtes là, mais vous n'avez jamais fait la paix avec Dieu, une fois pour toutes, vous n'avez jamais reconnu vos fautes devant Dieu, votre culpabilité, prenez le temps avant que le jugement ne vienne. Aujourd'hui est un jour de grâce, aujourd'hui est un jour de salut pour vous. Et vous pouvez dire au Seigneur, « Seigneur, je reconnais mes fautes, j'ai transgressé ta loi, j'ai transgressé ta parole. Je n'ai pas marché selon ta volonté, je n'ai pas fait ce que tu me demandais, je n'ai même pas cherché à écouter, je ne te connais même pas, je ne t'ai pas aimé, je ne t'ai pas suivi. Mais Seigneur, je ne veux pas non plus être perdu et je te demande pardon pour tout cela. Et je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, pour me sauver. Alors, je reçois le Seigneur ce soir comme mon sauveur. Terminons par un mot de prière et puis par un cantique.